Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui va vous proposer une semaine que nous avons intitulée « Restes humains, les restes humains comme ferment d'humanité » et qui porte sur les rapports entre l'homme, la personne, le cadavre. Nous allons commencer cette semaine en compagnie de Christina Cattaneo, qui est médecin légiste et dont le livre intitulé « Naufragés sans visage, donner un nom aux victimes de la Méditerranée » vient d'être traduit en français. La figure du migrant tente à devenir une entité abstraite dans les discours populistes. Dans nos sociétés, ils sont largement invisibles, se confondant dans une population devenue largement multi-ethnique. Les morts en Méditerranée nous émeuvent, parfois nous indignent. Mais ils demeurent de purs signes, une abstraction. D'où l'importance du travail extraordinaire que fait Christina Cattaneo, son équipe, et au-delà, toutes les autorités civiles et militaires italiennes dont il va être question ce soir. Ils ont en effet pour but d'identifier les cadavres et les restes humains repêchés en Méditerranée ou échoués sur leurs côtes pour leur donner un nom, une histoire, une vie antérieure. Bref, pour leur conférer une dignité post-mortem. Christina Cattaneo, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que, merci d'avoir pris du temps dans votre séjour à Paris pour venir dans Matière à penser et nous parler du travail que vous faites. J'allais dire, c'est un travail long que vous faites depuis longtemps à Milan.
Oui, depuis 1995, je pense, on s'occupe à l'Université de Milan, au Labanov, d'identifier les inconnus, de donner une identité aux inconnus. En avant, c'était les inconnus domestiques, les oubliés, partout, les morts dans la rue, qui n'avaient pas une identité. On avait vu qu'il y avait un gros problème. On avait poussé pour faire une interrogation parlementaire et finalement, on a cherché en Italie de faire quelque chose pour ça, au niveau du gouvernement, mais en 2013, voilà qui arrive la question des migrants et les inconnus, et on sait que c'est beaucoup de morts, hein, c'est plus que 30 000 morts
dans la Méditerranée. C'est énorme. En Méditerranée.
Oui, on est devant la catastrophe plus grande depuis la Seconde Guerre mondiale, mais on ne la traite pas comme on traiterait un avion qui s'écrase.
Christina Cattaneo, les avions qui s'écrasent, vous aviez eu une triste expérience avec la catastrophe de l'INATE, l'aéroport qui est près de Milan.
De Milan.
Et là où il y avait 118 morts, je crois, en un crash aérien.
Oui, et là, s'est passé ce qui devait se passer. On a organisé des équipes et on a identifié les morts en 14 jours avec beaucoup de pression des parents, du public, justement, pour redonner une identité.
Oui, précisément, il y avait une pression sociale. Les victimes étaient italiennes, scandinaves aussi, mais principalement italiennes. Donc, c'était des morts de chez nous, si je peux m'exprimer
ainsi. Exactement. C'était nous, entre guillemets.
Alors que en Méditerranée, qui sont ces gens? Qui sont ces migrants? Ils n'ont pas de visage pour nous.
Exactement, et je pense que le travail de redonner un visage, une identité, donc un visage à ces gens a un but qui est pas seulement technique, de faire des certificats de mort qui sont très importants pour les vivants. Il faut se rappeler qu'il faut identifier les morts pour les vivants.
Bien sûr.
Mais il a le rôle aussi de donner un visage et donc faire que cette personne n'est plus Monsieur X, un inconnu, mais c'est quelqu'un, et peut-être c'est plus difficile de tourner la tête.
Oui. C'est ça. Alors le visage, j'ai lu dans votre livre que le visage, c'est quand même le grand moyen d'identification pour des cadavres présentables, pour des cadavres qui ne sont pas abîmés. C'est d'abord par le visage, et d'ailleurs la procédure d'identification demandée aux proches, c'est de regarder le visage, bien sûr.
Oui, c'est de regarder le visage et après ça, de comparer les caractéristiques parce qu'il faut les identifier dans une façon scientifique. Donc, on les regarde et après ça, on compare les cicatrices, les tatouages, la physionomie du visage. Et où on peut utiliser l'ADN, on peut utiliser aussi autre chose.
Mais alors, Oui, vous parlez, Christina Cattaneo, des tatouages. Alors, c'est très intéressant parce que dans votre livre, vous avez affaire, vous autopsiez, vous analysez des restes humains qui ne sont pas occidentaux, qui ne sont pas de notre culture, qui peuvent avoir des petits signes sur le visage, mais qu'on ne reconnaît même pas comme signes. Ça peut être des cicatrices. Elles sont peut-être un petit peu symétriques, un peu régulières, bien placées. Mais ça veut dire qu'il faut faire un travail aussi d'une projection culturelle de l'autre.
Ah oui, c'est très difficile et c'est très nouveau pour nous, parce qu'il faut connaître ce qui est culturel et pas pathologique, parce que nous, quand on recueille les données en thème hors thème des parents, et on demande, il y avait des cicatrices, mais ça, peut-être, pour les parents, n'est pas aperçu comme une cicatrice, donc comme quelque chose de...
Oui.
Anormal.
C'est ça. Et alors, vous avez prononcé le mot antémortem. Pour nos auditeurs, c'est important qu'ils comprennent que vous avez une distinction fondamentale dans votre travail. C'est antémortem, postmortem. La personne, son corps avant la mort et le corps après la mort. Expliquez-nous ça, Christina Cattaneo.
Exactement. Bon, pour identifier une personne, il ne faut pas seulement faire l'autopsie et recueillir les données du cadavre, dont l'ADN, mais les dents, on disait les tatouages, les cicatrices, mais il faut avoir quelque chose avec lequel les comparer. Et les données sont les données antémortem qu'on recueille des parents qui portent les photographies, les données cliniques, l'ADN de la brosse à dents, par exemple. Et là, après, on fait une comparaison entre les données antémortem du vivant et les données postmortem du mort. Et comme ça, on identifie.
C'est ça, bien sûr. Mais alors, vous avez pensé souvent, dire les dents, le mot les dents, c'est très intéressant que, en fait, les dents sont, de manière tout à fait inattendue pour nous autres vivants, une carte d'identité assez fiable.
Oui, et comme vous dites, on est en train aussi de changer un peu le moyen culturel de les sciences médico-légales, parce que tout le monde pense que ça suffit de faire l'ADN aujourd'hui. Mais nous sommes en train d'apprendre avec ces catastrophes des migrants qui n'ont pas de parents proches, on prend la brosse à dents parce qu'ils sont partis il y a 10 ans de la maison. Et il faut focaliser, il faut utiliser des disciplines qui sont pas qu'on connaît plus, comme l'anthropologie, l'odontologie, mais la forme des dents qu'on voit par exemple dans une personne dans une photo qui sourit.
Oui. Alors l'anthropologie, elle est bien sûr, elle est convoquée à tout moment dans votre travail. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, qui est tout à fait d'ailleurs, comment dirais-je, qui est un rapprochement absolument personnel, intuitif et qui n'a pas de valeur scientifique, c'est que vous avez remarqué dans le Barcone, vous avez expliqué ce que vous avez fait, mais tous les cadavres, la plupart d'entre eux, étaient en position fœtale.
Ouais.
Et comme vous savez, les premiers hommes enterrés ont été enterrés en position fœtale. Ça intéresse beaucoup les anthropologues parce que ça montre que finalement la position fœtale, c'est la position de la naissance et que ça donne cette conception cyclique de l'existence dans nos cultures. Tous étaient en position fœtale.
Oui, et c'était, on a pensé, une position de protection parce que on sait que la catastrophe a eu lieu en 4 ou 5 minutes. Donc, parmi les CAT scans, donc l'imagerie radiologique, on a pu faire des reconstructions des positions et on a vu que la majorité était dans cette position et on pense que c'était une protection. Imaginez-vous dans le ventre d'un bateau qui a 5 personnes par mètre carré quand il commence à basculer et qu'est-ce qu'on fait? On cherche à se protéger dans cette position.
Bien sûr, bateau, faut le rappeler, qu'on ne connaît pas, c'était un chalutier égyptien probablement, que vous avez bâti. Le Barcone, le gros bateau, qui est déjà d'ailleurs une sorte de, si je me trompe, une sorte de rapport affectif, il Barcone, c'est-à-dire que vous créez un lien déjà avec ce bateau qui a été un immense cercueil en réalité.
Oui, ce bateau représente beaucoup. On a un lien très fort avec ce. Quand je dis on, c'est que tous ceux qui ont travaillé sur ce Barcone, et parce qu'il représente beaucoup de choses. Il est un peu un personnage de tous ces événements parce qu'il a protégé et je le vois un peu comme un guerrier, une guerrière blessée. qui a porté, qui a transporté tous ces cadavres chez nous pour pouvoir lui donner la possibilité d'être identifié. Il représente aussi une Italie qui a embrassé, qui a embrassé,
qui a épousé la cause, bien sûr.
Cette tragédie et les parents de ces gens, et il y a un lien très fort avec ce bateau.
Oui, bien sûr, à tel point d'ailleurs que le projet existe d'en faire un mémorial. Un mémorial d'un phénomène qui est incroyablement invisible, décentralisé, éparpillé, qu'il faut pouvoir symboliser, que pour nous les vivants de ces pays d'accueil, les familles, etc., nous avons besoin, parce que nous sommes des hommes, nous avons besoin de symboliser leur mort.
Et nous avons besoin de se rappeler, surtout. Et ça, c'est la peur plus grande que j'ai. Maintenant, on ne parle plus des cadavres, des morts de la Méditerranée, comme on en parlait, parce qu'il y en a moins, mais il y en a encore. Et j'ai peur que dans quelques années, nos adolescents à l'école ne sauront plus qu'il y avait cette tragédie. Il y avait des adolescents qui, dans 2016, mouraient dans un bateau qui était comme les bateaux des esclaves du XVIIIe siècle.
Et on a beaucoup de mal à métaphoriser ce qui se passe. On a beaucoup de mal à trouver ce qui se passe. Pour avoir une idée, ces chalutiers étaient faits pour un équipage d'une quinzaine de personnes, à peu près.
Oui, trentaine maximum
de personnes. Et il y en avait...
1000. Les survécus, il était 28, ils sont très précis dans le raconte de 10 voyages d'une centaine de personnes qui sont montées sur le bateau. Donc c'est presque 1000 personnes et nous on a presque 800 cadavres.
Dont certains ont été forcés de monter sur le bateau.
On peut dire qu'ils ont été forcés à rester sur le bateau parce que ils racontent que ils s'apercevaient du fait que la ligne de l'eau était très haute et certains voulaient descendre mais ils ne les laissaient pas descendre. Donc on a cette histoire.
Donc c'est vraiment une barbarie du 21e siècle.
Oui, exactement, une barbarie.
Et cette barbarie nous interpelle, et je crois que c'est le mérite de votre livre et de votre travail, c'est cette capacité d'interpellation. Mais on peut pas passer par-dessus les morts, on peut pas passer par-dessus les personnes en chair et en os, et en l'occurrence beaucoup plus en os qu'en chair.
Oui, non, c'est une barbarie. Et je pense que le rôle des morts, et je trouve que les morts sont souvent plus éloquents des vivants, de raconter comme ils étaient, comme ils sont morts, et de voir le risque qu'ils savaient de courir, et comme ils sont finis, est très éloquent. Et je trouve que c'est une barbarie. Barbarie est le bon mot. On peut s'imaginer des adolescents qui voyageaient horizontal dans la partie plus basse du bateau, qui sont morts et qui sont restés squelettes là, et 1000 personnes sur un bateau tellement petit. Dans le 2015-2016, quand à 2000 km d'une Europe qui se déclarait très libérale, mais surtout qui protégeait ou qui disait de protéger les droits et les mineurs. Et c'est un paradoxe. On a des bateaux pleins de mineurs qui sont en train de mourir, et une Europe qui ne voit pas ou qui ne veut pas voir ou qui ne fait pas beaucoup.
Et Christina Cattaneo, des mineurs à qui vous avez pu restituer leur qualité de mineur, parce que ça se voit sur les os.
Oui.
Il y en a même un, vous descendez, vous dites autour de 18 ans, autour de 16, non, autour de 14 ans.
Oui, presque la moitié étaient des adolescents et les autres étaient des jeunes hommes. C'est un bateau au masculin. Hein.
Il n'y a que des hommes.
Et il n'y a que des hommes pour l'instant, parce que sur les restes osseux, il faut rappeler qu'on avait presque 520 corps, plus ou moins entiers, mais on avait plus que 20 000 os. Mélangés, commingled remains, on les appelle terme technique. Et donc, il y aura, je pense, encore deux années de travail pour chercher de les reconstituire dans personne et faire l'ADN.
Vous savez, Christina Cattaneo, que en français, il y a le mot, je ne sais pas si ça existe en italien, on dit un ossuaire. Un ossuaire, c'est là où on met. Et que l'ossuaire de Douaumont, de la bataille de Verdun, la grande bataille de Verdun, on n'a pas pu démêler les os humains des os de chevaux. C'est-à-dire que ce destin effroyable, dans lequel il y avait une sorte de bestialisation de la cruauté, par la cruauté, eh bien, l'ossuaire de Douaumont, qui est immense, on n'a pas pu départager les hommes des animaux.
Bon, là, j'espère qu'on pourra partager. Là, il n'y a pas beaucoup d'os d'animaux. Il y a quelques os de requins, je pense. Mais on espère au moins d'identifier les gens qu'on n'a pas et représentés par des cadavres entiers. Et donc, je pense que là, on a 300 crânes, par exemple, qui sont peut-être 300 personnes en plus. Donc, on est à 800 personnes.
Et puis, tout d'un coup, surgit dans votre travail, surgissent des éléments de la vie quotidienne, des éléments alors qui sont extrêmement signifiants.
Oui, il y a des signifiants pour eux et pour nous aussi, sûr, parce qu'ils sont
faire communication.
Et ils rapprochent beaucoup, beaucoup. Par exemple, il y a des petites boulettes. Exactes dans les t-shirts des garçons avec dans lesquels il y a la terre du pays de l'Érythrée, de Sénégal. Et ça, moi, je me suis identifiée tout de suite avec ça, parce que moi, quand je laisse un pays que j'aime, je prends toujours des branches, des fleurs, des feuilles, et je me les mets dans les poches. Donc, c'est exactement un comportement dans lequel je me suis identifiée.
Bien sûr, qui est un comportement profondément humain, parce qu'il est profondément symbolique. Oui. Je vais prendre quelques morceaux de terre pour garder avec moi quelque chose de ce que j'ai été, de ma patrie, que je n'oublie pas. Quelque chose de quand vous découvrez ça lors de l'autopsie, vous dites avant, pourvu que ça soit pas de la drogue.
Ah oui, parce que à Milan, devant la même chose, j'aurais pensé comme ça, parce qu'on est on a le training pour penser comme ça, mais là, c'était déjà tout le monde était tendu, il y avait une tension politique aussi très je trouvais de la drogue, ça aurait fait les choses beaucoup plus difficiles.
Alors en même temps ce sont des hommes, donc ils sont pas tous innocents. Il n'y a pas une innocence absolue. C'est ce que dit Hannah Arendt à propos de la Shoah. Elle dit on a emmené au four crématoire des enfants absolument innocents et inoffensifs, et des gens, des malhonnêtes, des brigands. Tout le monde y est passé. Et elle dit d'ailleurs cette innocence était inhumaine. Et donc je crois que peut-être qu'il y a parmi eux des gens où s'ils étaient parvenus à remonter par la France, par l'Italie, ils auraient commis peut-être des larcins, des délits. Eh bien oui, ils sont des hommes.
Oui, c'est normal, hein. C'est l'humanité. Il y a du bon, il y a du mal.
Bien sûr.
Mais c'est pas pour cette raison qu'on ne les identifie pas.
Bien sûr. Et vous avez trouvé aussi, ça ce moment est très émouvant dans le livre, vous avez aussi trouvé un carnet scolaire.
Oui, beaucoup, hein.
Beaucoup.
On parle d'un, mais on a beaucoup.
Il nous touche parce qu'il est en français.
Oui, il est en français. Il y en avait d'autres en français, mais ça, c'était le premier qu'on avait trouvé et cousu dans les vêtements de ce gamin, de cet adolescent qui avait pensé, ou la mère ou père avait pensé de lui mettre dans une position très protégée, ce qui aurait pu être un passeport pour une carrière, pour une vie en Europe. C'est très...
Oui, parce que c'est tout un symbole, un carnet scolaire. Un carnet scolaire qu'on emporte avec soi, c'est une manière de dire qui je suis et qui j'ai envie d'être. Qui j'ai envie d'être.
Il y avait beaucoup d'autres carnets comme ça. Il y avait des tickets pour la bibliothèque, pour l'accès aux bibliothèques. Il y avait même des cartes pour donner le sang. Oui. Et donc, il y avait des adolescents qui étaient aussi très... C'est peut-être très stupide de le dire, parce qu'on le sait, il y a du bon, il y a du mal,
comme vous disiez, mais il y avait
des gens qui donnaient le sang, et les gens ne pensent pas à ça.
Oui, tout à fait. Et alors, tout d'un coup, ces personnes qui se présentent à vous et à nous dans un état déplorable, dans un état de déchet, dans un état de putréfaction, qui est répugnant, disons le mot. Et finalement, vous êtes, en allant au plus profond, en regardant de face, en travaillant, en analysant cette horreur, vous arrivez à les réhumaniser, Christina Cattaneo.
Oui, ça a été un travail qu'on a dû faire avec les pompiers aussi, de lui expliquer que ces masses informes sont des personnes, sont un fils, un père, et que le geste des pompiers, quand ils sont allés enlever les cadavres du bateau, était le premier geste à lui redonner une identité et à les redonner à ses parents. Et ils ont compris ça avec une humanité incroyable, les pompiers qui ne sont pas des techniques, qui ne sont pas des experts, donc ça a été très émouvant.
Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Cristina Cattaneo, médecin légiste italienne et qui a entrepris avec les autorités de donner une identité aux naufragés dans la Méditerranée, avec laquelle nous écoutions ce morceau de Michel Portal. Alors, vous parliez du travail des pompiers. Il n'y a pas eu que les pompiers, les autorités militaires, la marine italienne, les députés. Il y a eu tout un mouvement en Italie, Cristina Cattaneo.
Le procureur, le préfet. Un mouvement en Sicile entre, il faut rappeler, entre Catania et Siracusa. C'était les agences qui travaillaient dans la justice, qu'ils ont, et dans le militaire, qu'ils ont embrassé cette tragédie. Et la marine militaire surtout nous a préparé une morgue excellente, qui était meilleure que la morgue normale dans laquelle on travaille, sur la mer.
C'est ça. Et alors, dans un endroit qui, en plus, est un endroit magnifique, qui était un endroit splendide, ils ont construit une morgue. Tout est nouveau, tout est hors norme dans ce travail, Cristina Cattaneo. C'est-à-dire qu'il a fallu inventer, vous le disiez, des nouvelles techniques médico-légales, d'anthropologie forensique, comme on dit, dans un anglicisme. Il a fallu construire une morgue. Il a fallu former rapidement des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, étaient bénévoles, c'était des stagiaires.
Oui, mais les 80 personnes qui ont mis les mains sur les morts étaient des médecins ou des anthropologues qui avaient un peu d'expérience. Après ça, il y avait des gens qui aidaient avec les cartes, mais il y avait des médecins et des gens qui étaient en train de se spécialiser en médecine légale, qui étaient très jeunes. C'est des jeunes adultes entre 25 et 30 ans, et ça a été très touchant, voir l'enthousiasme et l'humanité des jeunes, et ça me donne de l'espoir.
Pour quelque chose qui est terrible quand même à faire.
Ouais.
C'est quand même des conditions assez, oui, très très pénibles pour les jeunes médecins, les jeunes spécialistes qui sont...
C'est pénible, en même temps c'est une expérience énorme, parce que c'est une expérience scientifique très très importante, je pense, pour qui te prépare à la difficulté d'identifier ces gens, et il y en aura de plus en plus, même à niveau domestique, des gens qui n'ont pas de rapport, qui n'ont pas...
C'est mais difficile. Ça veut dire qu'il y a une nouveauté technique, une nouveauté administrative. Enfin, il fallait sortir le bateau de l'eau, etc. Mais aussi, peut-être, je pense au droit. Est-ce que vous aviez le droit qu'il faut pour ça, ou est-ce qu'il a fallu aussi, là, inventer des choses?
Non, il faut absolument inventer des choses et créer des... Je ne sais pas si c'est des lois ou quelque chose d'administratif de nouveau, parce qu'il y a un limbo, dans
un
lequel,
trou juridique,
pas seulement ces morts ici, mais aussi les morts domestiques qui n'ont pas... qui sont pas victimes d'un crime et qui meurent sans un nom, parce que dans ce cas-là, en Italie, le procureur n'est pas obligé à dépenser des efforts, des énergies
et
pour trouver
sûr,
et de l'argent,
bien sûr.
Ça, pour les identifier, parce que il doit le faire seulement dans le cas d'une victime du crime. Donc, s'il y a pas un crime clair, ou si le crime a déjà été, on a déjà trouvé les coupables, comme dans le cas des morts dans la Méditerranée, des trafiqueurs, non,
des
trafiquants. Là, il n'y a pas d'obligation. Alors, c'est à qui la responsabilité et l'obligation d'identifier ces morts? Et là, il faut, à niveau européen, qu'on trouve une solution, parce que c'est nécessaire de pouvoir faire des certificats de mort, je répète, pour les vivants.
Bien sûr. Alors, on va revenir sur ce rapport entre les morts et les vivants, mais bon, clôturer ce chapitre. Le procureur, c'est la fameuse question en droit de l'absent. C'est comme les gens, il y a les gens non identifiés, ou les gens qui sont partis, ou les gens faibles. Et là, dans la tradition, surtout la tradition latine d'ailleurs, de la tutelle, la personne qui représente l'absent, ou la personne qui n'est pas capable de se gérer elle-même, c'est le procureur. Il y a un représentant naturel qui est le procureur. Et il faudrait peut-être, Christina Cattaneo, à penser à continuer cette action que vous avez commencé, pour la continuer au niveau européen, pour qu'il y ait des représentants juridiques qui préservent les intérêts, y compris de ces personnes qui sont décédées.
Oui, et qui créent des règles qui peuvent être valides dans les différents pays, parce qu'il faut pas oublier qu'on n'est pas tout, on n'a pas tout la même administration, la même justice dans les détails de comment gérer les morts. Mais en tout cas, je trouve que l'Europe, là, a un rôle très important d'un point de vue aussi pratique, parce que les morts sans identité sont au sud de l'Europe, sont enterrés au sud. Les parents, beaucoup de parents de ces morts, qui sont en train de devenir des citoyens européens, sont au nord de l'Europe, au centre, nord Europe. Donc, ça suffirait pour une bonne partie de ces morts de faire un lien, un réseau, qui fait une comparaison des données.
Bien sûr. Alors, comparaison des données, on voit à quel point ces données biométriques de base sont absolument capitales pour tout le monde, pour les familles, pour les autorités, pour établir une politique. Il faut les avoir. Mais alors, Christina Cattaneo, ça veut dire, vous dites il faut s'occuper des morts pour les vivants. Vous avez été en contact avec certaines personnes, justement, qui sont au nord, qui sont en Allemagne, qui sont en Angleterre, et dont vous aviez peut-être retrouvé des membres de la famille.
Oui, on a trouvé beaucoup de membres, parce que quand on a commencé à travailler, pas sur le barcone, mais sur le premier expériment, entre guillemets, qui c'était les victimes, les 400 victimes de la catastrophe du 3 octobre 2013. Mmh. En 2014, on a commencé à dire, mais il faut faire quelque chose pour les identifier. Bon, là, on a fait un appel, le gouvernement italien a fait un appel parmi les NGO.
Oui, c'est ça,
les ONG. Et on a eu... Et l'appel était, si vous cherchez quelqu'un sur ce bateau et vous pensez qu'il est mort, si vous avez perdu quelqu'un, venez à Milan ou à Rome dans ces dates. Bon, on pensait que personne ne serait arrivé, mais 80 familles, plus que 80 familles, sont venues à chercher ces morts. avec les moyens qu'ils avaient, avec ce qu'ils avaient. Et c'était très touchant. Certains arrivaient en voiture du nord de l'Europe, ils dormaient devant l'Institut. C'était vraiment, vraiment touchant. Et ça, c'était l'épreuve parce que le leitmotiv était « mais personne ne les cherche, on ne peut pas les identifier ». Et ça, c'était la preuve qu'il y a beaucoup de gens qui les cherchent.
Ben oui, et puis c'est la preuve que les humaniser, c'est retrouver le carnet scolaire, c'est retrouver la relation qu'ils avaient avec leur terre, c'est retrouver leurs frères, leurs amis, et ça c'est possible, mais c'est possible que s'il y a ce travail initial.
Seulement comme ça, oui.
C'est la seule manière, et ça montre à quel point d'ailleurs la question des migrants est une question européenne, profondément européenne, parce que ils arrivent au sud, ils vont au nord, les morts, certains malheureusement restent au sud, leurs copains, les plus fortunés passent au nord, mais dans le fond, cette question nous concerne tous. Alors vous avez dit à un moment, ils vont être enterrés. Qu'est-ce qu'on fait de ces restes une fois qu'ils ont été identifiés?
Bon, les restes, quand ils ne sont pas identifiés, sont enterrés avec un nom, un code qui accompagne le code des échantillons, hein, pour l'ADN et pour les autres examens. Et au moment, nous, on a identifié une quarantaine de personnes et donc il y a des parents qui ont certificat de mort, et ça a été très important dans un camp pour les orphelins qui étaient en Afrique, pour les faire rejoindre la sœur en Suède, la sœur de la mère morte en Suède, parce qu'ils ne pouvaient pas, selon les autorités, se bouger, et parce qu'ils n'étaient pas orphelins d'un point de vue de l'administration, de la loi. Et donc, ça prouve que l'importance des certificats de mort, de décès, l'identification des morts.
Oui, et qui permet cette inhumation. Inhumation.
Alors, l'inhumation est chère. Bon, il faut parler d'argent. Oui. Quand on a identifié, on a donné, on a envoyé les certificats de mort, mais personne n'a encore demandé l'inhumation, l'exhumation pour porter le mort au pays, parce que c'est cher. C'est très cher et la crémation n'est pas contemplée par beaucoup de ces religions. Donc c'est très très cher et ça va être un problème.
Mais c'est important parce que c'est la fin du processus d'hominisation. Votre brillant compatriote Vico, Giambattista Vico, il a fait cette observation que je trouve extrêmement intéressante pour nous tous, juristes, citoyens. Il dit l'humanité est faite à partir de la racine humus et non pas homo. Humus, ça veut dire que c'est ce qui doit retourner à la terre. Ce qui nous rend homme, c'est justement ce qui ne peut pas être laissé. Comme ça, comme un chien, comme un animal, soit sur terre, soit sur mer. Et c'est le début et peut-être même la fin de ce processus d'humanité, Christina Cattaneo.
Ah ben, je trouve que c'est très intéressant cette chose. Mais quand vous dites Giambattista Vico, moi, je me rappelle de l'école et des corsi et des ricorsi, les cours et les recours, on dirait en français.
On dit en français, on dit en italien les ricorsi, corsi, ricorsi.
Exacto. Et je trouve que ça a à faire avec cette question des migrants, parce que il faut, vu qu'on nous dit que les choses retournent, et il ne faut pas que ça retourne. Et on retourne au discours de la mémoire et de l'importance de se rappeler, et donc le mémorial avec le bateau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2016, il y avait des mineurs qui mouraient dans cette condition tout près de l'Europe.
Bien sûr. Mais alors, vous introduisez une notion qui me semble essentielle, parce que la mémoire, c'est le temps. Est-ce que tout le travail que vous faites, ce travail médico-légal sur les cadavres, Christina Cattaneo, c'est un travail qui mise sur le temps. Ce qui mise sur le temps, je pense à ce que font, il y a une expérience qui ressemble à ça au Liban, quand on trouve des charniers de la guerre libanaise, les associations de droits de l'homme ont réussi à ce qu'on prenne au moins, qu'on prélève l'ADN au moins, quand c'est possible, parce que bon, pour l'instant les conditions politiques ne permettent pas un travail de mémoire, mais peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, parce que la force de l'ADN et la force de la science, c'est précisément ce temps très très long. Et il y avait cet adage latin qui disait veritas filia temporis, la vérité est la fille du temps. Et bien vous contribuez, ce travail médico-légal, Christina Cattaneo, contribue à cette élaboration de la vérité qui va peut-être prendre beaucoup, beaucoup de temps.
Oui, certainement beaucoup de temps, mais on a vu que même avec un des nôtres catastrophes domestiques, les Twin Towers, le 11 septembre, maintenant, après 15 ans, on vient d'identifier une autre victime. Donc, la science a pu s'évoluer pour faire identifier
les victimes qui sont encore inconnues. Et puis, ça donne un visage pour tout le monde. Ça donne de l'espoir, peut-être, ou ça met fin à un espoir tout à fait injustifié, indu, qui est la douleur des familles de disparus, où ils se disent toujours, est-ce que je ne vais pas retrouver quelque part? Est-ce qu'il ne s'est pas perdu en Europe, mais il est toujours vivant? Donc, c'est cruel, mais c'est nécessaire. Mais ça veut dire que il y a un visage aussi pour nous. Ces gens ont désormais une histoire, et c'est une histoire. On peut s'identifier à une histoire.
Oui. Je trouve que c'est aussi important.
C'est ça. Alors, ce qui est intéressant pour nous aussi, de manière plus générale, c'est que le travail que vous faites, Christina Cattaneo, c'est un travail de biométrie. C'est-à-dire, c'est comment trouver l'identité des gens. Comment retrouver une histoire? Comment retrouver un rêve de venir avec un bon carnet de notes, etc. Vous retrouvez une histoire à partir de données qui sont extrêmement scientifiques, oui. etc. Et je constate que nous sommes à une époque où l'identité des gens est de plus, des vivants, est de plus en plus biométrique.
Oui, là c'est très vrai, et on pense seulement au physique, à la matière physique qui constitue notre identité, mais c'est pas seulement ça, et on l'a découvert, je pense, avec nous comme médecins légistes, comme techniciens, avec l'étude de ce qu'il y avait dans les poches de ces garçons, non, parce que ça se nous fait retourner à un concept d'identité beaucoup plus large, beaucoup plus multidisciplinaire, beaucoup plus intéressant aussi.
C'est ça, et puis qui est pour le coup extrêmement social. C'est-à-dire que il faut à la fois être capable de prélever de l'ADN, d'analyser des dents, et puis aussi d'avoir ces données sociales. On pourrait dire ces données cérémonielles de l'individu.
Ou ce qu'il y a dans les journaux qu'il tenait dans les poches, dans le bagage. Et je trouve que c'est très important aussi pour faire connaître cette identité, pas seulement celle biologique, à qui ne la connaît pas ou à qui ne la veut pas connaître. Non,
c'est ça, donc voilà, bien sûr. Et oui, parce que du coup, un mort en Méditerranée, c'est plus uniquement cette photo de ce petit garçon que tout le monde connaît, mais ça, c'est un cliché médiatique dont le père était furieux d'ailleurs
cette exploitation. Moi, je comprends bien.
Bien sûr. Alors que là, mais ce qui est intéressant, je pense à ce que dit ce philosophe français Paul Ricoeur, qui a travaillé sur la question de l'identité, et il dit, l'identité, c'est deux choses. L'identité, c'est l'idem, c'est-à-dire c'est l'ADN, c'est la constitution génétique. Ça, on n'y peut rien, on n'y touche pas. Elle va pas muter pendant qu'on est en vie. Mais c'est aussi l'identité, la promesse faite à soi-même, l'identité ipsée, l'ipséité. Il opposait la même-té et l'ipséité. Et la fidélité à soi-même, ça veut dire une histoire, ça veut dire des rencontres, ça veut dire des témoins de cette histoire. Et finalement, on a l'impression, à vous lire, Christina Cattaneo, c'est que on s'imagine d'ailleurs la condition du départ. Il y en a un, je crois, il hésitait à prendre l'avion ou prendre. Il était tellement impatient.
Elle voulait étudier en Europe. Elle était impatiente. Elle devait partir et le gouvernement érythréen ne lui donnait pas les documents. Donc, elle a choisi d'aller avec les amis et part.
C'est ça, il est parti et il n'est jamais arrivé. Et donc, là, on voit bien ce que voulait dire l'identité au sens second, au sens de la fidélité à soi, de la promesse à soi. C'est-à-dire que, voilà, je veux me battre pour étudier en Europe, pour vivre ma vie. Et dans le fond, le travail que vous faites, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez dans cette approche, Christina Cattaneo, le travail que vous faites, c'est de reconstituer, de permettre de passer cette identité sociale, cette identité personnelle, de la comprendre et de la faire circuler de nouveau parmi les vivants.
Oui, ça c'est une chose, c'est avoir compris cette implication-là que vous dites maintenant, je l'ai compris avec le temps, pas immédiatement, parce qu'on est préoccupé par l'identité biologique, parce que ça sert à... Mais ça, c'est autant importante que l'identité biologique. Et pour l'identité biologique, c'est un paradoxe, parce qu'on est en train de rencontrer beaucoup de limite de la science, parce que c'est très intéressant, parce que on voit qu'avec l'ADN maintenant, on n'a pas les outils pour identifier très bien ces populations parce que, par exemple, on sait très peu sur la génétique de ces populations. On est très bien identifié les nôtres parce que à marquer l'identité avec l'ADN des populations connues, les nôtres, non, entre guillemets. Mais pour les populations du Mali, du Sénégal, on est en train de découvrir la faiblesse de la science qui a besoin de faire encore de recherches pour trouver les façons pour donner une identité génétique.
Mais, donc, oui, bien sûr, oui. C'est très intéressant d'un point de vue comme réflexion générale sur la science. On est dans une époque très scientiste aujourd'hui.
Mais on sait que, je retourne à ce que vous disiez, l'identité, la vraie identité, oui, des fois c'est difficile de trouver celle biologique, mais c'est celle-là qu'on a dit aussi, qu'on vient de dire. C'est ce qu'ils ont dans les poches, ce qu'ils voulaient être.
C'est ça. Il y a cette théorie de dire ce qui fait une relation humaine, c'est non seulement la connaissance, mais c'est surtout la reconnaissance. Exact. Je te reconnais comme un autre. Mais ce que vous nous dites là, Christina Cattaneo, c'est que au niveau même de la science dure, de l'ADN, de la compréhension des mécanismes les plus biochimiques, on a besoin de cette reconnaissance culturelle. Exactement. On a besoin de se reconnaître entre la génétique malienne, sénégalaise, érythréenne.
Exactement, voilà. Oui. Et c'est quelque chose qui nous ouvre des portes, nous ouvre le point de vue, hein, nous enseigne beaucoup de choses. On pense qu'on a tout appris, mais c'est pas comme ça. On est au début.
Vous avez beaucoup appris, Christina Cattaneo. Vous avez beaucoup appris dans cette aventure.
Bon, oui. Oui, surtout sur les limites, sur l'importance de se parler. Les scientifiques doivent parler avec les juristes, ils doivent parler avec les anthropologues culturels, les sociologues. Et surtout, il y a beaucoup encore à travailler sur des lois, sur les droits. C'est un monde très intéressant qui a beaucoup besoin de l'apport de chacun de nous.
Et maintenant, il faut aussi structurer tout ça, c'est-à-dire que vous avez, j'allais dire bricoler, c'est pas gentil, mais vous
non,
voyez,
mais c'est vrai, c'est du bricolage,
c'est du bricolage,
oui,
voilà.
Parce qu'on n'a pas d'argent, c'est du bricolage que je identifie avec le rôle de l'université. L'université, selon moi, a le rôle de voir où il y a besoin de la recherche, des actions scientifiques en sens général, et après ça, c'est quand tu crées le modèle qui peut fonctionner, peut marcher, c'est le rôle de l'institution de prendre ce modèle et de l'appliquer à la société. Et là, on est dans le moment où on attend. Parce qu'on ne peut pas aller avancer comme ça, on ne peut pas continuer comme
Bien
ça. C'est pas...
Et c'est aussi ce qui est très intéressant pour nous ici en France et pour les autres pays européens, c'est à voir à quel point l'Italie est un exemple de ce côté-là. Parce qu'elle a été en avance, malheureusement, avec ce triste privilège d'avoir sur ses côtes les arrivées de migrants, mais que on a aussi des choses à apprendre les uns des autres, même si en France, ça serait moins l'université qui ferait cela, parce qu'on a des corps organisés médico-légaux pour les gendarmes, pour la...
Mais nous aussi.
Ah oui.
Mais on retourne aux ressources.
Ah oui.
Si je dois identifier 1000 morts et j'ai 200 000 vivants pour lesquels je dois faire l'identification, faire l'accueil, c'est où est-ce qu'on prend les gens pour faire la partie scientifique? Parce que nous aussi, on a la gendarmerie, la police qui a beaucoup travaillé sur ça. Mais ça ne suffit pas. Et donc, il faut trouver un autre système.
Christina Cattaneo, quelle est votre perspective maintenant? Vous avez... cette affaire n'est pas terminée, n'est pas clôturée, on vient de le dire. Elle va continuer pour encore des années. Mais quelles sont vos attentes ou votre espoir?
L'espoir, c'est que grâce aussi à une traduction française du livre, je ne pense pas que ce livre va changer le monde absolument, mais qu'il y a un moyen d'arriver aux oreilles de l'Europe. Parce que je pense que c'est un passage très, très, très important. Donc, je m'attends que quelque chose va changer, va bouger en Europe.
Parce qu'en tout cas, donner un visage, ça prend un sens très concret, très physique. Comment on reconstitue un visage, d'ailleurs, c'est une des techniques d'identification. Mais ça veut dire aussi parler au peuple, parler aux Français à travers ce livre. Je crois que vous avez donné, Christina Cattaneo, un visage et donc une existence et peut-être la condition pour qu'on puisse, pour qu'il puisse y avoir des attentes. Parce que la politique ne bouge que lorsqu'il y a des attentes sociales.
Oui, exactement.
Merci beaucoup, Christina Cattaneo.
Merci à vous.
Matière à penser, Christina Cattaneo, Laurie Vachon, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et je vous donne rendez-vous demain soir avec le père Patrick Desbois qui nous expliquera le travail qui n'est pas sans rappeler ce dont on a parlé ce soir pour les morts de la Shoah. À demain.